Eh bien, Père éternel, on veut te remercier, Seigneur, pour ce temps qu'on peut prendre ensemble pour voir, Seigneur, comment tu bâtis ton Église. Et Père, en faisant un survol d'histoire de l'Église, on est instruit, Seigneur, on est enseigné à grandir en humilité, à reconnaître que l'histoire de ton Église est remplie et parsemée de moments glorieux, de moments tristes aussi. Et ça nous aide, Seigneur, à être en garde nous-mêmes pour veiller sur nos cœurs et chercher humblement ta face en toutes choses. Merci, Seigneur, de préserver, de bâtir, d'avoir préservé l'Évangile à travers tous ces siècles aussi, Seigneur. C'est vraiment une grâce incroyable alors que nous sortons de cette période d'obscurantisme du Moyen Âge, Seigneur, et que la gloire de ton Évangile va éclater à travers de nombreuses réformes. Je te demande de nous aider à apprécier, Seigneur, la richesse et la valeur de ce que des millions de personnes ont chéri avant nous et un grand nombre se sont battus pour préserver, Seigneur. Je te prie de nous bénir ensemble ce matin, c'est en Jésus que je te prie. Amen. Alors, la semaine dernière, on terminait le Haut Moyen Âge. On parle là, du 14e siècle, d'accord? Et ce matin, on entre dans la période de la Réforme à proprement dite. On va voir quelques éléments précurseurs de la Réforme. Pour situer les gens là, qui ont un petit peu une idée là, du déroulement de l'histoire de l'Occident, tout ça, lorsqu'on parle de la Réforme, on va dire que ça commence au moment où Martin Luther est excommunié de l'Église catholique. D'accord? Officiellement, c'est là qu'on va situer le début de la Réforme. Maintenant, il y a des événements précurseurs à ça. Il y a des événements précurseurs dans la société. Il y a des choses comme la découverte de la presse, l'invention de la presse par Gutenberg, qui est vraiment important dans le développement même de la Réforme. Donc, il y a des éléments qui sont précurseurs à ça. Puis, il y a des critiques déjà qui commençaient au sein de l'Église catholique sur des choses absurdes, des choses scandaleuses au sein de l'Église, sans nécessairement que l'Évangile ait été entièrement redécouvert. D'accord? La semaine dernière, on terminait le Haut Moyen Âge et puis j'avais commencé à aborder je voulais juste mentionner très très vite là, des éléments qui allaient contribuer à préparer la Réforme. Puis on a parlé de la scolastique qui a été développée entre autres par Anselme et puis par Thomas d'Aquin. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Là, j'étais rendu, je m'entendais à la fin et j'ai dit « Oh boy, ok, on est dans de la philo, de la théologie, on est rendu loin un petit peu. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a retenu quelque chose sur le raisonnement fondamental de Thomas d'Aquin ou la différence entre lui et Anselme dans leur défense de la foi? Si ce n'est pas le cas, je vais vous le résumer vite, vite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'essayer? Oui, Élie. OK. Alors, je vais le répéter. Oui, c'est excellent. Alors, si vous voulez vous rappeler de la différence entre ces deux hommes-là, rappelez-vous de la citation d'Anselme. Anselme disait « Je crois afin de comprendre. » Puis Thomas d'Aquin, lui, estimait le contraire. Ces deux hommes-là croyaient en Dieu. Ces deux hommes-là, je ne pourrais pas être sûr au niveau de leur sotériologie, là, de leur doctrine du salut. Je n'ai pas pris le temps de bien l'examiner. Mais ces deux hommes-là avaient de la déférence pour la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'ils étaient un contre l'autre. Mais les deux étaient en train de se pencher sur la question « À quoi sert la raison humaine pour comprendre l'univers puis pour connaître Dieu? » Anselme, qui est le précurseur de Thomas d'Aquin, Anselme lui disait « L'être humain n'a pas la capacité par lui-même de comprendre Dieu, de comprendre l'univers. C'est quelque chose qui est trop grand pour nous et simplement s'appuyer sur la raison pourrait nous conduire dans l'erreur. » Alors Anselme il disait « Je crois pour comprendre. » Parce que je crois en Dieu, parce que je crois qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses, qui a organisé l'univers, parce que je crois que l'univers a un sens, parce que je crois qu'il y a un être intentionnel, parce que je crois qu'il a inspiré la parole de Dieu. À ce moment-là, je vais me permettre d'aller étudier l'univers, étudier le fonctionnement des planètes, étudier la science, tout ça. Et je vais voir dans ça la main de Dieu, la souveraineté de Dieu. Mais donc, la foi est comme la prémisse de base pour pouvoir comprendre toutes choses. D'accord? Thomas d'Aquin, lui, il disait non. Lui, il disait, c'est Dieu qui nous a créés à son image. Et parce qu'il nous a créés à son image, nos sens, c'est-à-dire notre intelligence, notre raison, ce qu'on peut comprendre en le regardant, l'examinant, l'étudiant, tout ça, peut nous conduire par l'étude à Dieu. Alors, Thomas d'Aquin n'était pas en train de dire que quelqu'un pouvait être sauvé simplement par sa raison, que quelqu'un pouvait comprendre parfaitement Dieu à partir de sa raison, mais il croyait que, puisque Dieu nous a dotés d'intelligence, quelqu'un qui n'aurait pas la Bible, qui n'aurait pas la foi, simplement en étudiant, à l'époque les microscopes n'existaient pas, mais avec simplement en étudiant la science, en viendrait à croire en Dieu. D'accord? Éventuellement, ce que Thomas d'Aquin a développé, d'autres vont le pousser plus loin et on va arriver à certains théologiens, par exemple qu'Alexandre a écrit un papier sur Rainer, qui est un théologien catholique de l'époque de Vatican II, alors là on parle du 20e siècle, mais qui vont aller jusqu'à dire eux autres tout simplement, puisque Dieu se révèle dans la révélation générale, dans la nature en partie, si quelqu'un honore Dieu à partir de ce qu'il voit dans la nature, il peut être sauvé à partir de là. Et donc, simplement en observant la nature, tu peux croire en Dieu, croire que Dieu existe, et si tu as ça, c'est suffisant pour être sauvé, ça finit là. Tu n'as pas besoin de Christ. En fait, Rainer va plus loin, là, c'est un peu mystique, mais il va dire que tu es en Christ, même si tu ne le connais pas. D'accord? Ça, c'est ça va découler de Thomas d'Aquin. Anselme, Thomas d'Aquin. Les deux disent vrai, puis peut-être pas juste. Est-ce qu'il y en a qui pourraient nous dire, parce que si je vous dis « je crois pour comprendre », si je vous dis, bien, non, je pense qu'en étudiant, on peut aussi en venir à la foi. En fait, Thomas d'Aquin disait, ça va conduire, on peut y arriver à la foi. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans ces affirmations-là? Parce que ce n'est pas tout faux, tout vrai, c'est pas selon vous. Prenons la première. Anselme dit, je crois pour comprendre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est tout vrai, tout faux? Un café? Espresso. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, donc ça prendrait la foi pour les accepter, OK? Si je te dis Paul dans Romains 1, je vais juste montrer le raisonnement, OK? Parce que je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire, là, c'est pas que je suis pas d'accord. Si je vais dans Romains 1, Paul dit dans Romains 1 que Dieu manifeste, Dieu se révèle à travers la nature. On peut connaître certaines choses de Dieu. Est-ce que Thomas d'Aquin n'a pas raison à ce moment-là? Est-ce que Thomas d'Aquin a raison ou il n'a pas raison? Oui, non? OK. Alors, c'est vrai, je suis pas mal d'accord avec toi, Gérard. J'apporte une nuance qui vient un petit peu plus loin dans Romains. Dans Romains, Paul dit aussi que nul ne cherche Dieu. Alors là, il y a notre nature pécheresse qui vient en compte. Donc, si je voulais nuancer la pensée de Thomas d'Aquin, il disait, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Si tu observes toutes choses, tu devrais conclure que Dieu existe. Ça pourrait te conduire à la foi, logiquement. Oui, mais on est pécheurs. Et donc, par conséquent, l'être humain, de par lui-même, depuis la chute, ne cherche pas Dieu. Ça prend la grâce de Dieu pour l'attirer à lui. Oh, fait que ça, c'est un élément qu'il faut ajouter pour avoir quelque chose de complet. D'accord? Alors, vous voyez, c'est pas à trancher au couteau. Puis, en fait, une bonne partie de ces raisonnements-là font partie de nos raisonnements très... vous allez parler de l'Évangile avec quelqu'un, vous allez parler de Dieu avec quelqu'un, automatiquement, vous allez avoir tendance à vous servir de quelque chose qui se passe dans les journaux, un scandale, quelque chose de scandaleux, puis vous allez vous dire, mais cette personne-là va être outrée, elle aussi, de cette affaire-là, et vous allez vouloir vous servir de ça pour le conduire à dire, oui, mais tu penses pas qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un soit jugé pour avoir fait quelque chose comme ça? Ah, vous êtes en train de vous servir, voyez-vous, de son raisonnement. On n'est pas dans les Écritures, on n'a pas ouvert la Bible, on n'est pas dans la Révélation, on est juste en train de dire... Il me semble, hein, ta conscience ne te dit pas, toi aussi, que ça mérite un jugement, cette affaire-là. Alors, voyez-vous, on a intégré, même dans notre évangélisation régulière, certains des éléments de cette approche-là. Et donc, la scolastique, avec la Renaissance, tout ça, va contribuer à préparer l'avènement de la Réforme. La Renaissance, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire c'est quoi la Renaissance? Je vous fais parler un matin. Il y en a qui savent c'est quoi la Renaissance. En art, c'est quoi? Pardon? Alors, la redécouverte de toute la culture, la mythologie, l'écriture, la littérature gréco-romaine. Et là, les gens ont recommencé à s'intéresser à ça, commencé à étudier ça. Et vers la fin de cette période-là, l'imprimerie va être inventée par Gutenberg. Et là, à ce moment-là, la connaissance va pouvoir commencer à être diffusée très, très rapidement. D'une certaine manière, lorsqu'on arrive à la Renaissance puis à la Réforme, on retrouve dans cette période-là des conditions sociales, des facteurs dans la société un peu similaires à ce qu'on avait à l'époque de l'Empire romain lorsque Christ est venu puis que les apôtres ont commencé à répandre l'Évangile. Vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé de l'Empire romain, on a dit qu'il y avait des facteurs vraiment clés qui étaient là au départ, qui ont facilité énormément la propagation de l'Évangile. Sécurité dans un territoire énorme, des routes qui étaient sécures, des routes qui avaient été construites pour des déplacements militaires très rapides pour le commerce. Ça contribuait au voyage, sécurité en mer aussi pour pouvoir voyager. Une langue commune, le grec, lorsqu'on parle du sud de l'Empire, tout le milieu de l'Empire, le latin un petit peu plus vers le nord, mais le grec permettait de couvrir énormément de territoire, puis ultimement, tu pouvais te rendre à peu près n'importe où juste avec le grec, d'accord? Alors, ces facteurs-là, qui n'étaient pas des facteurs religieux et spirituels, ont contribué énormément à la propagation de l'Évangile parce que ça a facilité la circulation des missionnaires, tout ça, d'accord? D'autres facteurs aussi, c'était l'intérêt pour le... Un autre facteur, c'est l'intérêt pour le monothéisme des Juifs, d'accord? Et ça aussi, ça a ouvert la porte. Lorsqu'on arrive à la période de la Renaissance, il y a des facteurs similaires qui vont contribuer à ce que l'Évangile, lorsque l'Évangile est redécouvert par les précurseurs de Martin Luther, par Martin Luther, Zwingli, Calvin, tout ça, il y a des facteurs sociaux qui vont contribuer à ce que l'Évangile soit répandu très rapidement puis que les réformes se multiplient très, très rapidement. Un de ces facteurs-là, c'est le très haut niveau de corruption à l'intérieur de l'Église catholique. Malheureusement, c'est vrai, mais ça va contribuer à ce que l'Évangile soit répandu très rapidement lorsqu'il va y avoir une ligne qui va être tracée entre l'idée de dire être catholique puis être chrétien. C'est vraiment Martin Luther qui va venir le trancher le plus publiquement. Un autre facteur, c'est l'imprimerie, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Et un autre facteur, c'est tout ce qui est en train de se passer avec la Renaissance, où on était en train de s'approprier des langues anciennes, on redécouvrait des langues anciennes, on recommençait à étudier des textes dans leur langue originale. On voulait redécouvrir la culture grecque, on allait l'étudier dans le grec. Bien, de là à se dire, ce serait peut-être intéressant de faire la messe dans la langue du peuple, par exemple, puis que chaque personne puisse avoir une Bible dans sa langue, il y a juste un pas, d'accord? Alors ça, c'est des facteurs extérieurs, mais lorsque Martin Luther va être excommunié de l'Église catholique, lui va contribuer aussi dans l'autre sens à ce que la société évolue très, très vite. Je vais essayer de le dépeindre tout à l'heure, d'accord? Fait que la foi chrétienne va avoir aussi un impact sur la société énorme. Oui, brièvement. Oui et non, mais on va y revenir. J'espère avoir le temps de finir avec ça, parce que c'est vrai aussi pour d'autres églises réformées, mais je comprends ce que tu veux dire. OK. Ce sera pas long, je vais juste revoir mes petits trucs ici. Alors, si vous voulez retenir une chose pour Martin Luther, le facteur le plus important à retenir, c'est qu'il nous a aidés à redécouvrir l'Évangile. D'accord? Quand vous pensez à Martin Luther, encore une fois, je l'ai dit au début du cours, là, je ne parle pas de Martin Luther King. D'accord? Martin Luther King, ça a été un de nos contemporains, pour ainsi dire, 20e siècle, défense de la cause des Noirs. C'est un pasteur protestant américain qui est mort assassiné. Mais là, on parle de Martin Luther qui a vécu au 16e siècle. D'accord? Et donc, on parle d'un réformateur allemand. Mais si vous voulez retenir une chose pour Martin Luther, il nous a aidé à redécouvrir l'Évangile. OK, tout à l'heure, je parlais de la corruption au sein de l'Église catholique. Si je prends le temps de dire ça, c'est pour deux raisons. C'est certainement pas pour m'amuser à attaquer l'Église catholique ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais pour deux raisons. Premièrement, pour comprendre le contexte social. Mais deuxièmement, pour comprendre l'histoire aussi. D'accord? Parce que je peux pas voir l'Église catholique aujourd'hui sans connaître son histoire, parce que pour accepter ce qu'elle enseigne maintenant, il faudrait qu'elle reconnaisse les erreurs de tout ce qu'elle a enseigné. D'accord? pour que je puisse être ouvert à ça. Et des fois, vous allez parler avec des évangéliques qui vont vous dire, oui, mais il y a un retour aux Écritures dans l'Église catholique. C'est extrêmement superficiel. C'est pas profond. On se rend pas jusqu'à l'Évangile. Oui, mais ils prêchent aussi le salut par grâce. C'est vrai. Allez acheter le nouveau catéchisme que Jean-Paul II a publié. Vous allez trouver le salut par grâce dedans. Vous allez trouver le purgatoire. Vous allez trouver le salut par les œuvres dedans. Vous allez trouver le salut par grâce et son contraire. D'accord? C'est ce qui est important de réaliser. Donc, si je prends le temps de parler de l'Église catholique, c'est pour se rappeler ça, pour comprendre ça et pour comprendre pourquoi est-ce que la réforme était nécessaire. D'accord? Maintenant, la corruption, à cette époque-là, c'était énorme. Énormément de membres du clergé avaient des concubines. C'était connu. Les gens savaient ça. C'était un système qui était reconnu, pas accepté, mais reconnu. L'Église le savait et fonctionnait avec ça. J'ai parlé plutôt, ça a commencé même dans les années 400, là, mais où on achetait des positions au sein de l'Église catholique. Lorsqu'on arrive à cette époque-là, on atteint vraiment un summum, d'accord? On appelle ça la simonie. Vous vous rappelez Simon le magicien qui voulait acheter la possibilité de faire des miracles. Bien, c'est ça. Si vous cherchez dans le dictionnaire, simonisme, ça vient de Simon le magicien. Eh bien, on achetait des positions à l'intérieur de l'Église catholique. C'était une pratique qui était tout à fait commune. Une autre pratique qui était faite aussi, c'est le pape puis les autorités qui étaient près de lui pratiquaient l'absentéisme. C'est-à-dire que ce qu'il faisait, c'est qu'il s'arrangeait pour que dans une paroisse quelconque, puis ça, il multipliait ça, c'était vraiment une pratique intentionnelle. Il s'arrangeait pour qu'il n'y ait pas de prêtre dans telle paroisse, dans telle église. Et la raison pour ça, c'est qu'à ce moment-là, les offrandes, ceux qui voulaient donner, ne donnaient pas à l'église, mais devaient s'arranger pour que ça se rende directement à Rome. Et donc, il n'y avait pas de dépenses encourues à cet endroit-là. Il y avait plus d'argent qui rentrait directement à Rome. Et donc, volontairement, on gardait des sièges dans des paroisses sans prêtre, pour s'assurer que les dépenses n'est pas dans les paroisses, mais se rendent directement à Rome. C'est une pratique qui était commune à l'époque aussi, d'accord? C'est documenté. C'est pas seulement les protestants qui voient ça dans leur histoire, c'est quelque chose qui est documenté. Maintenant, la corruption au sein de l'Église catholique a probablement atteint son sommet avec le pape Alexandre VI, qui a régné de 1492 à 1503. Ce pape-là a eu au moins 7 enfants de 4 maîtresses différentes, d'accord? Et donc, c'était un pape qui ne se privait pas de beaucoup de plaisirs mondains. C'était un pape qui se livrait à peu près à tout ce qu'il désirait de ce côté-là. Il y avait une rumeur où il y avait une espèce de slogan qui courait dans le peuple à l'égard du pape Alexandre VI. Et on disait « Alexandre est prêt à vendre les clés de l'Église, les autels de l'Église, le Christ lui-même, puisqu'il s'est acheté toutes ces choses avec de l'argent. » Et donc, c'était comme ça que le pape était vu à l'époque par les gens du peuple. Mais ça, c'est des facteurs précurseurs pour une réforme dans l'Église. D'accord? C'est des facteurs qui vont contribuer à ce que, si quelqu'un peut apporter la vérité, on va sortir de là, on va se détacher puis on va le suivre. Ça allait pas être simple, ça allait être extrêmement difficile, mais quand même, c'est des facteurs précurseurs. Avec les croisades, je vous avais expliqué que les croisés ont rapporté beaucoup de reliques, donc toutes sortes de parties ou de choses qui soient un petit bout de bois qui vient de la croix de Jésus, un poil de la barbe de Jésus. Je suis pas sarcastique quand je dis ça, je suis très sérieux là. Et donc un morceau de paille de la mangeoire dans laquelle Jésus a été déposé, et puis on rapportait ça, supposément c'était ça, et puis on apportait ça dans l'église et à ce moment-là les gens venaient, les pèlerins venaient pour pouvoir se prosterner devant ces reliques-là, venir prier à Dieu devant ces reliques-là, et ça apportait de l'argent évidemment et un contrôle sur le peuple à tout seigneur croisé qui pouvait revenir des croisades avec des choses comme ça. Et donc il y a eu vraiment un trafic de reliques qui a commencé, qui est devenu énorme. Par exemple, il y a un prince allemand qui avait une collection absolument extraordinaire de reliques. Et si je vous dis ça, c'est encore une fois, c'est juste pour montrer à quel point c'était rendu fou, cette situation-là. Alors, il avait une dent de Saint-Jérôme, une dent, 4 morceaux du corps de Saint-Chrysostome, 6 morceaux du corps de Saint-Bernard, 4 pièces du corps de Saint-Augustin, je sais pas c'est lesquels, d'accord? 4 cheveux de la Vierge Marie, trois morceaux de son vêtement, sept pièces du voile qui avait été aspergé par le sang du Christ. Il avait un morceau du vêtement du Christ, 13 morceaux de ses côtes, non, excusez-moi, de son tombeau, comme je vous disais tout à l'heure, une paille de sa mangeoire, une pièce d'or qui avait été apportée par les mages à la naissance de Christ, trois pièces de myrrhe, un poil de la barbe de Jésus, un des clous qui avait servi à percer ses mains, et un morceau de pain même du repas du Seigneur qui a été pris avant sa crucifixion. Et puis, une partie de la roche où Jésus était au moment de son ascension. D'accord? Ça, c'était sa collection personnelle. Fait que j'ai l'impression qu'on aurait pu reconstituer quelques Christ et puis quelques croix. Je ne sais pas combien il y avait de clous, en fin de compte, en circulation, vous comprenez? C'était assez aberrant. Mais donc, c'est vrai, là, ça, c'est documenté encore une fois, d'accord? Alors, c'était le contexte. C'était le contexte de l'époque. C'était rendu une farce monumentale. Mais ce n'était pas une farce dans le sens que les gens y croyaient. Ça marchait. Les gens allaient voir ces reliques-là, vouaient un culte à ça, payaient pour ça. Et donc, un prince qui aurait tout ça, vous imaginez le contrôle qu'il pouvait avoir sur des gens qui croyaient qu'il fallait que tu te rendes là, que tu pries là pour être pardonné de tes péchés. Alors, tout le système des indulgences était poussé à son maximum et par toutes sortes de moyens, tu pouvais acquérir des indulgences. Quelqu'un pourrait nous rappeler c'est quoi une indulgence? Oui, alors c'est les indulgences, ce sont des mérites acquis par Christ et les apôtres, d'accord? Qui était sous le contrôle du pape. Et donc, par toutes sortes de moyens, le pape pouvait octroyer qu'une partie des mérites des apôtres et du Christ puisse vous être attribués. D'accord? Et donc, il y avait des réserves de ça. Maintenant, si vous pensez que tout ça, là, c'était pour le Moyen-Âge, puis c'était une époque, excusez-moi ce que je veux dire, là, si vous pensez que tous ces gens-là, c'était des attardés, là, moi, je vais juste vous conter brièvement. Il y a un monsieur que j'aime énormément, qui est catholique, qui doit avoir pas loin de 90 ans maintenant. C'est un monsieur, c'est un Français, qui a fait la guerre, qui a lu toute sa vie. J'ai passé des heures à discuter avec ce monsieur-là de culture. Sa culture est extraordinairement vaste. C'est un catholique dévot. Cet homme-là s'est marié 4 fois parce qu'il a enterré 3 épouses. D'accord? Il n'a jamais quitté sa femme. C'est un catholique dévot. D'accord? Quand sa troisième épouse est décédée, qui était dans la famille de mon épouse, quand sa troisième épouse est décédée, ce monsieur-là que j'aime tellement, avec qui on mangeait du bon vin, on buvait du bon vin, on mangeait du bon fromage, puis qu'il avait toujours sa pipe dans la bouche, on arrive chez lui, pas de fromage, pas de vin, pas de pipe. Alors je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Il est en train de vivre son veuvage à ce moment-là. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Puis il m'a expliqué que pour un temps indéterminé, il était en train d'accumuler des indulgences en faisant pénitence par lui-même pour s'assurer que son épouse sorte le plus vite possible du purgatoire. D'accord? Maintenant, ça, je vous compte ça, c'est une dizaine d'années ici au Québec. Là. Puis comme je vous dis, c'est un monsieur super instruit. Là. Vous jaseriez avec, il vous entretiendrait pendant des heures d'histoire de l'Église, un million d'affaires. Vraiment instruit, on avait tellement du bon temps ensemble. Mais c'était sa conviction. D'accord? Alors, allez pas imaginer que ces affaires-là remontent à n'importe quand. Ouvrez les nouvelles dans le temps des fêtes en Amérique latine où vous voyez ces gens qui se font crucifier puis tout ça. Le système tient encore. D'accord? Parce que l'Église n'a pas renié ce système-là. Alors ça, c'est les indulgences. Un individu qui va contribuer au cheminement de Luther, c'est Tetzel. Tetzel était un moine qui avait été mandaté à une époque un peu plus tard où le pape préparait la construction de Saint-Pierre de Rome. Tetzel avait été mandaté de voyager et d'accumuler de l'argent pour la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. D'accord? Et ce qu'il faisait, Tetzel avait un slogan parce qu'il ramassait de la monnaie pour la construction, mais il disait pas « Voulez-vous donner des sous pour construire la basilique Saint-Pierre de Rome? » Je vais vous lire son slogan en anglais, puis je le traduirai après. « As soon as the coin in the coffer rings, a soul from purgatory springs. » Alors, son slogan, c'était « Chaque fois qu'une pièce de monnaie teinte au fond de mon baril, une âme sort du purgatoire. » D'accord? Et il s'en allait comme ça, puis les gens venaient, puis ils donnaient, d'accord? Et c'est un des facteurs qui a contribué à ce que Luther dise « Non, mais c'est une farce, cette affaire-là, ça n'a aucun bon sens. » D'accord? En réalité, il est en train de ramasser. Maintenant, vous voyez comment le système pouvait fonctionner. Il est en train de ramasser des sous pour construire la basilique Saint-Pierre de Rome. La basilique Saint-Pierre de Rome va être à la gloire de Christ. Et donc, des pèlerins vont pouvoir aller adorer Christ là. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait de mal dans tout ça? D'accord? En réalité, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, spécialement dans la période du Moyen Âge, si vous arriviez dans une ville, il y avait une compétition entre deux édifices qui devaient être deux monuments extraordinaires qui reflétaient un combat entre deux luttes de pouvoir, le château du Seigneur, la cathédrale du curé de la place, d'accord? Et donc, ces deux monuments-là, pourquoi est-ce que les cathédrales étaient tellement importantes? Plus elles étaient glorieuses et majestueuses, plus je gagnais en pouvoir sur la ville. Parce que les gens venaient là. Et moi, je vous dis qu'il y a des personnes ici d'entre vous, vous rentreriez dans une église catholique, surtout ceux qui sont des nouvelles générations, qui ne voyaient même plus les statues pour tout ce qu'elles représentent. Vous rentreriez là, puis vous diriez, « Ouais, j'ai vraiment l'impression que je sens que Dieu est ici. » Je vous dis. Je pense que ce sentiment-là, comme j'ai dit la semaine dernière, c'est un sentiment qu'on a lorsque je suis allé dans des montagnes rocheuses dans l'Ouest. J'ai dit, « Oh, Dieu! » Dieu est à quelque part derrière ça, ça se peut pas. Je pense que c'est juste ça, d'accord? Mais on se servait de ça pour pouvoir avoir un ascendant sur le peuple en mettant un paquet d'hérésies dans tout ça. Je ne veux juste pas manquer d'éléments. Alors, je vais brièvement vous parler de deux précurseurs, deux hommes qui ont précédé Martin Luther et qui ont contribué à la réforme avant même que Martin Luther vienne trancher. La force de Martin Luther, là, on va le voir, c'est qu'il y a eu une dimension politique énorme, pas dans un sens négatif quand je dis politique. Ce que je veux dire, c'est que ça a donné la possibilité à des pays, à des seigneurs de se distancer de l'Église catholique et à ce moment-là de pouvoir protéger une propagation saine de l'Évangile. Comme on va le voir avec Wycliffe, comme on va le voir avec Jean Hus, tant que ça ne s'est pas produit, l'Évangile n'a comme pas la latitude de pouvoir circuler. Alors, les deux personnages en question, je viens de les nommer, John Wycliffe. Est-ce qu'il y en a qui connaissaient une organisation missionnaire qui garde son nom, puis qu'est-ce qu'elle fait? Oui, André. Traduction de la Bible, d'accord? Alors, Wycliffe, c'est encore une organisation missionnaire à ce jour qui s'efforce de traduire la Bible dans la langue des peuples de toute la terre en envoyant des missionnaires qui étudient les langues, qui étudient les structures de langues, qui apprennent à créer un alphabet lorsqu'il n'y a pas d'alphabet, puis à traduire, puis à trouver les termes équivalents, puis tout ça. Et la raison pour ça, c'est que John Wycliffe a été le premier à son époque à traduire, c'est-à-dire à promouvoir la traduction de la Bible dans la langue du peuple. John Wycliffe était un professeur de Oxford. Il était un membre du gouvernement anglais. Et puis, il a été de plus en plus frustré. Alors lui, il a vécu au 14e siècle, on parle de 1300 quelques. Il a été de plus en plus frustré des divisions qu'il y avait au niveau de la papauté, comme j'ai mentionné. À certains moments, il y a eu jusqu'à trois papes en même temps, parce que l'empereur nommait un pape, l'Église nommait un pape, une autre faction dans l'Église pouvait nommer un autre pape, puis bon. Alors, à son époque, à lui, il y avait deux papes rivaux qui étaient là. Et Wycliffe a été un des premiers à pouvoir dire publiquement, puis que ses enseignements soient répandus, en ce sens qu'il disait, si c'est Dieu qui a établi l'autorité, ceux qui sont en autorité au sein de l'Église devraient suivre l'exemple de Christ et être des gens humbles plutôt que des despotes corrompus. Alors simplement, ce qu'il disait, c'est logiquement, si vous êtes l'autorité de l'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. À quelque part, vous devriez ressembler à Christ. C'était pas très révolutionnaire. C'est pas magique comme pensée. C'est assez évident pour nous. Mais c'était très courageux et très osé pour l'époque de commencer à dire ça et à l'enseigner. Je vous ai parlé au début du survol d'histoire de l'Église d'Augustin. Augustin, 4e siècle, d'accord? Alors, Augustin a beaucoup influencé John Wycliffe. je vous l'ai mentionné, moi je vous encourage à aller les confessions de, vous allez trouver sous le nom chez Renaud Bré, dans des couvertures souples, là, paperback, je m'excuse, les confessions de Saint-Augustin, vous allez trouver des bonnes traductions, pas de problème. Confession d'Augustin, la cité de Dieu d'Augustin. Mais donc, lui a été beaucoup influencé par Augustin et à travers Augustin, a redécouvert l'Église davantage et il y a eu cette idée que l'Église n'est pas nécessairement l'Église officielle. D'accord? Alors, est-ce que vous vous rappelez dans quel contexte Augustin a commencé à faire une différence entre la cité de Dieu puis la cité des hommes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle de ça? Oui, Yves. C'est plutôt le sac de Rome puis tout ça qui a été le gros facteur. D'accord? Lorsque Rome a été ébranlé, rappelez-vous de Jérôme. Jérôme a été énormément ébranlé parce que lorsque des barbares ont commencé à envahir Rome, il a dit ça se peut pas parce que Rome, pour lui, c'était l'Église dans son summum qui allait répandre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le royaume de Dieu qui est en train de s'installer sur terre à travers Rome. Mais là, Rome commence à être attaqué, tout ça. Lui est ébranlé. Augustin étudie ça, puis il dit, attendez un petit peu, nous, on est citoyens des cieux. On n'est pas citoyens de la terre. Il y a la cité des hommes qui est bâtie ici sur terre, où nous, on doit porter le message du royaume de Dieu. Mais en réalité, on est citoyens des cieux et on attend une cité qui est plus grande. D'accord? Alors, en lisant Augustin, Wycliffe dit, OK, les papes et l'Église catholique ne sont pas nécessairement l'Église. L'Église est composée des élus. Ceux qui ont cru, ceux qui croient dans la vérité. C'est pas parce que tu portes le nom de chrétien ou le titre de pape que nécessairement tu es chrétien. Alors, officiellement, dans des écrits publiés, Wycliffe est le premier à dire c'est pas parce que tu es pape que tu es chrétien. Ça, c'est révolutionnaire pour l'époque. D'accord? Est-ce que vous-même, vous laissez la latitude de vous poser la question? Le pape actuel est-il chrétien? Moi, je pense que plusieurs d'entre vous avez de la difficulté à dire, ben probablement pas, parce que, pas pour les mêmes raisons. À l'époque, c'était parce qu'il n'y a pas de salut à l'extérieur de l'Église. Aujourd'hui, c'est parce que Dieu est amour. Puis Dieu ne pourrait quand même pas donner quelqu'un qui veut faire autant de bien que ça pour lui. D'accord? Alors, c'est un autre raisonnement, mais ça nous amène possiblement à la même conclusion. D'accord? Alors, c'est ça. Wycliffe a dit « Le corps de Christ est constitué des élus de Dieu qui ont cru dans l'Évangile que Dieu a appelé pour leur salut. Il en est venu à déclarer que le pape et probablement plusieurs des leaders de l'Église n'étaient pas chrétiens. Et en réalité, c'était probablement des loups à l'intérieur de la bergerie. Et puisqu'il croyait que tous les croyants, tous ceux qui ont été élus, constituent l'Église, que ce n'est pas le pape et le clergé qui constituent l'Église sous laquelle on va se placer en protection, mais que ce sont les croyants, les élus qui constituent l'Église, ben pour lui, conséquemment, tous les élus devraient lire la Bible. Tous les croyants devraient lire la Bible. Et à cause de cela, il a commencé à travailler sur une traduction de la Bible dans la langue du peuple à ce moment-là. Et il a commencé à faire la promotion lui-même de cette idée que chacun devrait pouvoir lire la Bible pour pouvoir connaître Dieu personnellement. Il va terminer sa vie en marge de la société anglaise, d'accord? Il n'est pas excommunié, il est critiqué, il n'est pas mort martyr, mais il meurt en marge de la société sans réussir à amener les réformes qu'il aurait probablement souhaitées. Complètement. Mais ceux qui vont suivre John Wycliffe vont commencer à traduire la Bible en anglais, d'où l'organisation Wycliffe Bible Translators. OK, puis une autre chose que Wycliffe avait attaqué, c'est la transsubstantiation. C'est quoi mes vieux catholiques, vous connaissez ça, la transsubstantiation, c'est quoi? C'est Christ qui est à l'intérieur de l'hostie, c'est un petit peu plus que ça, c'est vrai? Un peu plus que ça? Oui? C'est que le pain est plus du pain, puis le vin est plus du vin. Le pain et le vin ne sont que corps et sang de Christ. D'accord? C'est non seulement qu'il est à l'intérieur, là. La nuance que j'ajoute, c'est juste que la nature des éléments même change complètement au moment où le prêtre va les bénir. Et c'est pour ça qu'un pauvre pécheur comme moi ne peut pas prendre ça et le mettre dans sa bouche. D'accord? Alors là, ça dépend des églises. Généralement, on le fait maintenant. Mais je veux dire, au départ, c'était pour ça qu'on sortait la langue, puis le curé qui était le saint homme le déposait sur ta langue. Parce que tu aurais pu souiller le corps de Christ. Oui. Ouais, ce serait intéressant, puis je t'avoue que j'ai même pas les connaissances suffisantes, par exemple, pour aller étudier les Jésuites, tout le mouvement des Jésuites, qu'est-ce qu'ils ont fait. Je vais en parler un petit peu ici en Nouvelle-France, au moment où l'Église catholique a envoyé les Jésuites pour chasser les Huguenots, puis ces choses-là. Mais dans le survol de l'Église, je vais pas dans les éléments un peu plus conspirationnistes derrière. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets intéressants à étudier de ce côté-là aussi. Je reste plus dans l'histoire officielle plus claire, plus simple. Puis on est vraiment dans un survol aussi. Mais c'est vrai qu'il y aurait d'autres éléments qui seraient étudiés là. Donc, lui va déclarer que ce n'est pas vrai que ces éléments-là deviennent... Je pense pas que John Wycliffe croyait, parce que c'est vraiment même après Luther qu'on va clarifier ça, là. Mais pour nous, par exemple, lorsqu'on prend le repas du Seigneur, nous croyons qu'au moment où on prend le repas du Seigneur, Christ est particulièrement présent, d'accord? Puisqu'il nous a commandé cela, nous croyons que c'est un temps où on veut se recueillir avec Dieu, on veut lui parler, on veut être sérieux avec ça, on veut pas prendre ça à la légère. Mais pour nous, ces éléments-là sont des symboles. On pense pas qu'ils prennent une proportion mystique, surnaturelle quelconque, les éléments qu'on consomme. D'accord? Bon, nous, on arrive à d'autres excès. On peut faire ça avec légèreté, on peut faire ça avec même un manque de respect. On peut arriver ici un petit peu n'importe comment pour prendre le repas du Seigneur. Bon, ça s'est passé même à Corinthe, c'était pire que ça. Il y avait des beuveries autour de ça, d'accord? À certains moments. Mais ce que je veux dire, c'est que pour nous, ce sont des symboles. Pour John Wycliffe, je ne pense pas que c'est un symbole. Je crois qu'il, si je comprends bien sa théologie, c'est juste qu'il aurait dit, oui, ces éléments-là, c'est un sacrement. Oui, c'est quelque chose de surnaturel qui se passe même avec les éléments, mais il demeure du pain et du vin aussi, d'accord? Je crois qu'il aurait compris qu'on recevait vraiment quand même Christ, son corps et son sang. Je ne voudrais pas vous induire en erreur, c'est ce que je pense comprendre. Ce qui va être le cas de Luther aussi, là, parce qu'on va parler de transubstantiation, consubstantiation. Alors, certains de ses disciples sont appelés les Lollards, et eux autres vont répandre, ils vont traduire des Bibles en anglais, ils vont devenir des missionnaires, et ils vont se rendre même en Bohème. Alors, on parle de l'Angleterre, on s'en va en Bohème, même jusqu'en en Tchécoslovaquie d'aujourd'hui, en termes de territoire, d'accord? Et donc, eux autres vont devenir des missionnaires, ils vont aller un peu partout. Un autre précurseur, c'est Jean Hus. Jean Hus a lu les enseignements de Wycliffe. Jean Hus venait de la Bohème, il était un prêtre en Bohème, et donc ces missionnaires, les Lollards, qui ont apporté les enseignements de John Wycliffe, Jean Hus a lu ça et il a commencé à réfléchir à ces choses-là. Il est devenu le recteur de l'université de Prague en 1402, d'accord? Il était un prêtre, comme j'ai dit, Bohème. Son premier souci à lui, c'était pas la théologie, son premier souci, c'était la morale. Il était dégoûté par la dépravation morale au milieu des autorités de l'Église. Et puis, il aurait voulu restaurer, il aurait voulu ramener l'Église à ses vertus premières, la ramener à avoir quelque chose de saint puis à être un vrai modèle pour la société. OK, c'est ça, vous avez un monument en l'honneur de Jean Hus ici à Prague, d'accord? Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Jean Hus va affirmer lui aussi que l'Église est composée uniquement des élus, ça veut dire de ceux qui croient pas de... Donc la distinction que lui va faire, on n'est pas dans la question, on n'est pas dans le grand débat là, de l'élection puis tout ça, là, d'accord? On est juste dans la question de dire, est-ce que tous ceux qui sont reconnus par l'Église catholique comme chrétiens sont de facto chrétiens? Ou est-ce qu'il y aurait des chrétiens nominaux puis des vrais chrétiens? Comprenez la nuance? Alors, si vous faites un sondage ici puis vous demandez aux Québécois combien de Québécois sont chrétiens, bien, il y a une bonne partie des gens qui vont cocher chrétiens parce qu'ils ont été baptisés lorsqu'ils étaient bébés. Mais ils n'ont que ça de chrétiens. Encore là, on parle du baptême des bébés, là. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, c'est vraiment culturel. Ça vient de leurs grands-parents, tout ça. Ça vient de leurs parents. Et donc, Jean Hus va lui aussi, comme Wycliffe, dire non, il y a des chrétiens nominaux. C'était pas le terme qu'il utilisait. Puis il y a les chrétiens. Les chrétiens, ce sont les élus, ce sont ceux qui croient, ce sont ceux que Dieu sauve. Et ce ne sont pas tous ceux qui portent le nom ou qui font officiellement partie de l'Église. Jean Hus a aussi défendu que l'autorité suprême sur tout chrétien, c'était la Bible. C'était la Bible qui était notre autorité suprême. Au sein de l'Église catholique, vous avez, je dirais, comme deux grandes institutions, mais il y en a une qui se divise en deux, où se situe l'autorité. Vous avez la Bible, évidemment. Vous avez les écrits de l'Église, les écrits officiels de l'Église, puis vous avez le Saint-Siège, le Pape, d'accord, qui est en fait la représentation toujours contemporaine de l'autorité ultime qui a été déléguée à Christ. À Pierre par Christ, qui aurait été transmis jusqu'à aujourd'hui. Et donc, l'autorité au sein de l'Église catholique, c'est la Bible, les publications de l'Église officielle et puis le pape. Et il n'y a pas vraiment de nuance à faire entre celles-là au niveau de la valeur de cette autorité-là. D'accord? Et c'est encore comme ça aujourd'hui. C'est pas changé, ça. Je comprends lorsque vous jasez avec des amis qui sont catholiques, ils vont vous dire ben non. Le pape t'en prends puis t'en laisses. T'sais. Je comprends, ça c'est leur croyance à eux, c'est pas l'enseignement de l'Église catholique. L'enseignement de l'Église catholique, c'est pas ça. L'enseignement de l'Église catholique, c'est que lorsque le pape publie une bulle papale, sa bulle papale est autoritaire, d'accord? Et elle a valeur de parole de Dieu. Éventuellement, l'Église catholique va dire que le pape peut faire des erreurs, mais il y a des moments où il publie une bulle papale que c'est inhérent, c'est sans erreur. C'est impossible d'avoir des erreurs là. Alors, comme tout homme, il pourrait faire des erreurs lorsqu'il n'est pas en train de publier une bulle papale. Ça vient beaucoup plus tard dans l'histoire. Alors, l'élément très important que Jean-Hus a apporté, c'est qu'il croyait que seul Dieu peut pardonner les péchés. Et que toute tentative d'usurper ce pouvoir-là à Dieu était profondément mal. Là, vous voyez qu'on s'en va vers l'élément fondamental du contrôle que l'Église catholique peut avoir sur le peuple. D'accord? Si j'ai plus besoin de passer au confessionnal pour que mes péchés me soient pardonnés, l'Église commence vraiment à perdre sa grippe, là. Énormément. Ça va venir plus tard, mais lui commence à enseigner ça. Il dit, c'est Dieu qui pardonne les péchés et toute intention d'usurper ce pouvoir-là, de se l'approprier, c'est profondément mal. Il a critiqué le pape, il a attaqué publiquement le pape et en réponse, le pape l'a excommunié. L'empereur, qui était sympathique quand même à certaines des critiques, comme je vous dis, les empereurs jouaient toujours sur deux flancs. Hein. Si tu pouvais déstabiliser l'Église catholique, tu pouvais reprendre un peu de contrôle. Fait que, bon. Alors, est-ce qu'il était sympathique parce qu'il trouvait qu'il y avait de la vérité? Je sais pas. Mais il était sympathique à certaines des critiques faites par Jean Hus et il l'a invité donc à venir se défendre devant le Concile de Constance. Et puis, le pape a réussi à le piéger avant ça, le faire arrêter, le faire brûler au bûcher. Et donc, Jean Hus est mort sur le bûcher en 1415. L'histoire raconte qu'en mourant, il aurait dit, « Seigneur Jésus, c'est pour toi que je souffre patiemment cette mort. Je te prie pour la miséricorde, de faire miséricorde à mes ennemis. » Est-ce que c'est exactement comme ça que ça s'est dit? Je ne sais pas, mais c'est ce que l'histoire a retenu. Des dernières paroles de Jean Hus. Et ensuite de ça, on a vu les Hussois, qui se sont répandus un peu partout, qui étaient des disciples de Jean Hus et qui ont continué à enseigner ça pendant environ 100 ans, jusqu'à temps qu'on arrive à la réforme avec Martin Luther. Mais pendant 100 ans, les enseignements des Hussois vont se répandre un petit peu partout tranquillement en Europe, jusqu'à ce qu'on ait un moine allemand qui vienne bouleverser tout le système, qui est Martin Luther. OK, on l'a mentionné, là, pour l'avènement de la, la, l'imprimerie, si on peut aller à la prochaine acétate, tout à l'heure, je vous ai dit une erreur, 1455. Et donc, pendant ce 15e siècle-là, de plus en plus, on va découvrir les écrits grecs, on va les publier, on va les imprimer, on va les faire circuler. La Renaissance prend vraiment tout son essor au niveau de la culture, au niveau de l'histoire, au niveau des arts, au niveau de la musique. Et donc, il y a une place qui est là pour que la connaissance puisse circuler. Comme je le mentionnais tout à l'heure, on étudie les langues anciennes, tout ça. Puis d'un autre côté, dans l'Église catholique, il n'y a rien qui change. Alors, les croyants sont très, très, très superstitieux. Ils sont pris dans des systèmes où ils sont en train d'essayer d'acheter des indulgences. Évidemment, la messe est faite en latin, n'est pas faite dans la langue du peuple. Les gens ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de pratiquer. Et puis, les gens font tous leurs efforts pour gagner leur ciel à travers toutes sortes de pratiques. Aujourd'hui, on pourrait comparer ça à de la magie. En réalité, c'était instauré dans l'Église catholique. Et puis, les gens essaient de gagner leur ciel, de gagner des mérites à travers ça. Comme je le mentionnais tout à l'heure, la manière que le pape justifiait ça, c'est que les mérites de Christ avaient été plus que nécessaires et les mérites des apôtres avaient dépassé ce qui était nécessaire pour leur propre salut. D'accord? Alors, Christ est mort. Matthieu a accumulé plus de mérites qu'il avait besoin pour compléter ce qui manquait au sacrifice de Christ pour son propre salut. Donc, ce qu'il y a en plus, c'est en banque. Le pape est détenteur de ces choses-là et puis peut les distribuer moyennant sous pèlerinage, toutes sortes de choses. Mais la question, c'est ça, la question demeure entière, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Bien, la réponse à cette époque-là, tu fais pénitence. Tu jettes des indulgences, tu fais pénitence, c'est par ces moyens-là que tu vas réussir à être sauvé. Parce que l'idée que le sacrifice de Christ c'est suffisant n'était pas enseignée du tout à l'intérieur de l'Église. D'accord? Le 10 novembre 1483, Martin Luther voit le jour et son père le destine à devenir avocat. Il le prépare pour devenir avocat. Il l'envoie étudier très tôt, très jeune. Mais jeune enfant, il était très, très religieux. C'était un homme qui avait la crainte de Dieu depuis un bas âge. Il allait aux enseignements de l'Église catholique, il était au sein de l'Église catholique, et il craignait Dieu, et il voyait Dieu comme un juge absolument terrible et impossible à satisfaire, et il s'efforçait, comme il le pouvait, à essayer de satisfaire ce Dieu-là. Il avait une peur mortelle de mourir parce qu'il était convaincu que son âme n'était pas prête à rencontrer Dieu et il ne voulait pas aller rencontrer le diable en enfer pour l'éternité. Luther raconte qu'à l'âge de 22 ans, alors qu'il était en train de se promener dans un champ, quelque chose comme ça, il y a eu un orage et la foudre a frappé près de lui. Il a été jeté, il a été projeté au sol. Et à ce moment-là, il a eu la peur de sa vie, comme vous imaginez, parce que son âme n'était pas en sécurité, n'était pas prêt à faire face à Dieu dans sa conviction profonde. À ce moment-là, il s'est écrié « Sainte-Anne, aide-moi et je vais me faire moine. » Et donc, il a fait un vœu à Sainte-Anne à ce moment-là de se faire moine si Sainte-Anne lui sauvait la vie à ce moment-là. Et donc, il a décidé d'abandonner ses études de droit et d'entrer au monastère. Il est entré au monastère de Wittenberg, en Allemagne, et il a commencé un long processus de mortification. Est-ce que vous savez c'est quoi la mortification? Pardon? C'est ça, la mortification, c'est toutes sortes de pratiques par lesquelles on va s'imposer des souffrances, soit dans le but de ne pas pécher, de contrôler la chair, soit dans le but de faire pénitence, de s'acquérir des pardons, d'accord? Vous avez entendu parler de l'Opus Dei? Dans les dernières années, dans les journaux, tout ça, non? C'est un petit mouvement à l'intérieur de l'Église catholique qui sont un petit peu plus extrémistes. Et il y a plusieurs personnes qui font partie de l'Opus Dei. Il en parlait à Radio-Canada qui porte, je me souviens plus du nom, je suis désolé. Pardon? Un stylet, merci. Il porte une espèce de corde sur laquelle, des fois ça peut être en métal, des fois ça va être en chanvre, mais ça va imposer de la douleur. C'est serré, c'est autour de la cuisse, c'est en dessous de tes pantalons. Fait que tu travailles, la vie est belle, mais tu souffres toute la journée dans le but de mortifier la chair. D'accord? Et donc, il y a des gens qui font partie de l'Opus Dei qui font ça à Montréal. Vous croiseriez quelqu'un, vous pourriez lui demander, tu fais partie de l'Opus Dei, ça veut-tu dire que tu es un stylet actuellement? La personne va dire oui, non. Mais donc ça, c'est la mortification. Là, je dois juste faire une petite nuance ici. L'idée de mortifier la chair, c'est une idée biblique. En quoi est-ce que ça pourrait être biblique? Parce que je voudrais juste établir la différence entre la fausse doctrine qui a été développée dans l'Église catholique puis l'instruction biblique. Comment ça pourrait être biblique de mortifier la chair? Pardon? Ouais, arrache ton œil, jette-le loin de toi. C'est ça. Alors, Paul disait qu'il travaillait très fort pour maîtriser son corps. D'accord? Et donc, il y a ce combat constant en nous entre le vieil homme qui veut refaire surface, d'accord, et l'homme nouveau. Et cette idée de veiller sur soi-même, de veiller pour se maîtriser, de veiller pour ne pas se laisser aller à des désirs de retomber dans le péché ou des choses comme ça, c'est tout à fait biblique, d'accord? Et les puritains vont vraiment développer une théologie autour de ça, l'idée de mortifier la chair. Mais ce n'est pas dans le but d'acquérir une justice devant Dieu. C'est dans le but de marcher dans la sainteté. Ça, c'est vraiment la différence majeure, là. Oui, Yves. Mm-hmm. Oui. Alors l'idée, ce n'est pas d'essayer d'acquérir de la justice. C'est la différence. On n'est pas en train de faire pénitence pour payer pour des péchés. Et ça, c'est une différence fondamentale. On va vraiment juste présenter rapidement à Luther, puis on va continuer. En réalité, je vais juste vous le mentionner tout de suite parce que je vais l'oublier, je vais le réannoncer tantôt. Mon cours ne se donne pas dimanche prochain et l'autre dimanche après. On va être absent, nous. On prend une semaine de vacances, 9 jours en fait. Puis Alexandre Marquis va enseigner ici dimanche prochain. Il va faire sa leçon sur le cours d'évangélisation ou Stéphane Rondeau, puis l'inverse. Stéphane Rondeau, puis après Alexandre Marquis. D'accord? Mais lorsqu'on revient, on va continuer Martin Luther. Alors, l'idée justement, c'est qu'en rentrant au monastère, il va commencer à avoir toutes sortes de pratiques pour essayer de se préparer à rentrer au ciel, dans le royaume des cieux. Il est devenu un moine parmi les moines. Il était plus dur envers lui-même que tous les autres. Il se consacrait constamment à la prière, au jeûne, à toutes sortes de travaux forcés pour essayer d'expier. Et dans le fond, ce qu'il poursuivait, c'est arriver à un état où sa conscience serait en paix devant Dieu. Où il pourrait dire « Je suis en paix ». Je peux rentrer, je peux mourir, je suis prêt à aller faire face à Dieu. Et donc, c'est ça qu'il cherchait. Et lui-même va dire, c'est pas par orgueil qu'il le faisait, c'était par peur de ce juge-là qui allait le condamner parce qu'il ne voyait pas d'autre système que celui-là pour pouvoir être sauvé. Il assistait à des messes, il a fait un pèlerinage à Rome. À Rome, il est allé gravir les marches de je sais pas c'est quelle basilique qui était là exactement à ce moment-là. Et puis, il les a montées une à une, embrassant chaque marche. Il faisait vraiment tout ce qu'il pouvait faire pour essayer justement de s'accumuler des indulgences. Et jamais il n'a été convaincu qu'il était en paix devant Dieu. Il se sentait toujours coupable. Finalement, ses supérieurs vont lui dire, « Regarde, arrête de penser à Dieu. C'est vrai, Dieu est juge. Concentre-toi sur Christ. » D'accord? Et ça ne servait absolument à rien parce qu'il ne comprenait pas l'œuvre de Christ. Et donc, ça ne lui procurait pas de paix, aucune paix. Il y avait un commentaire ici, celui qui a monté le cours, je trouvais ça intéressant. Nous, on regarde ces choses-là, puis on se dit, mais ça n'a aucun bon sens, c'est complètement fou. D'accord? Mais est-ce que Luther comprenait mal Dieu, ou est-ce que Luther avait juste comme gros problème qu'il ne connaissait pas l'Évangile? Et le commentaire de celui qui a monté le cours, il dit, aujourd'hui, un chrétien occidental n'est pas vraiment troublé généralement par ses péchés, puis il se pardonne vite, vite, vite toutes ses fautes. D'accord? Luther comprenait bien qu'un pécheur qui se présente devant Dieu est damné pour l'éternité. Puis il n'y avait pas l'Évangile. Fait que le problème de Luther, c'est pas qu'il voyait Dieu comme plus juste qu'il l'est. C'est qu'il n'avait pas vu la grâce. Il ne connaissait pas la grâce. D'accord? Et c'est important de saisir cette nuance-là. Parce que dans notre compréhension de la grâce, on arrive facilement à une espèce de situation où mes péchés sont pardonnés très, très vite. Puis en fin de compte, si j'ai péché, c'est peut-être pas vraiment de ma faute. C'est peut-être de la faute d'Élie parce qu'elle n'est pas correcte avec moi. Puis ça m'a amené à réagir comme ça. T'sais. Puis là, je vais blâmer mes parents, mes ancêtres, puis toute la gang pour toutes mes fautes. D'accord? Alors ça, c'est vraiment l'autre extrême. Martin Luther comprenait que Dieu est juste. Il n'avait aucune vue de la grâce et il ne savait pas comment il allait s'en sortir. Et à ce moment-là, ses supérieurs lui ont dit, ben, deviens théologien. Deviens docteur, tu vas passer du temps à étudier les Écritures, puis peut-être que tu vas pouvoir apaiser ton âme en faisant ça. Et donc, il va s'appliquer à devenir un théologien. Il va enseigner les psaumes, et il va enseigner Romains. Et on va voir dans 3 semaines comment il va découvrir l'Évangile dans les psaumes et dans la lettre aux Romains. C'est bon? On va terminer avec un mot de prière. Père éternel, ta parole est précieuse, Seigneur, et nous perdons de vue à quel point c'est précieux de pouvoir avoir ce livre dans notre langue, de pouvoir y plonger les regards, Seigneur, quotidiennement, de pouvoir méditer tes Écritures, de pouvoir éprouver ce qui est enseigné aussi à la lumière de ta parole, de pouvoir s'assurer que ce qui est dit est conforme et que nous te connaissons vraiment, Seigneur. Père, j'aimerais te demander de nous aider à mesurer un peu plus le sacrifice de Christ et sa valeur à la lumière de ta justice, et de comprendre que ces efforts que Martin Luther faisait n'étaient pas les efforts d'un homme qui était ignare, mais c'était les efforts d'un homme qui croyait dans la sainteté et la justice de Dieu. Et je suis tellement reconnaissant, Seigneur, pour ce que tu lui as montré dans les Écritures, qu'il n'y avait rien de nouveau, en fait, mais cette redécouverte de tes vérités fondamentales de l'Évangile, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus, parce que c'est vrai qu'aucune pénitence, aucun effort humain ne pourra jamais me rendre juste devant toi, Seigneur. Je suis et je demeurerai, si ce n'est par ta grâce, un pécheur, Seigneur. Sois béni. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.